demander à la salle si elle souhaite poser des questions. Si ces messieurs, dames veulent poser des questions, nous apporterons le micro qui vous permettra de poser votre question. Mais moi, j'en ai une toute petite. Le peu que j'ai essayé de me déplacer dans Rabelais a fait que je me suis très vraisemblablement perdu. Et à un moment donné, j'ai eu une remarque qui m'a interpellé. Certains pensent que, en définitive, Rabelais, avec toute sa maestria, toute sa culture, toute la profondeur que vous avez évoquée, en définitive, si à certains moments, il ne se moquait pas un peu du lecteur qui n'arrivait pas à saisir ces hauts arcanes bien au-delà de leurs possibilités.
Je pense que c'était la tendresse même, comme je le disais tout à l'heure, mais qu'il avait une énergétique en lui telle que ça pouvait aussi valoir comme cruauté. La preuve, hein, vous avez vu avec quelle violence il écartait tout à l'heure les inquisiteurs qui cherchaient des hérésies dans ses papiers. Et encore, notre acteur a lu les passages recommandables. Hein, mais quand il dit que les moines qui l'accusent d'hérésie sont exactement comme ces gougnafiers qui crachent dans le plat de viande pour que ensuite ils puissent se l'attribuer uniquement pour eux seuls, on voit qu'il y a une violence chez Rabelais. Et regardez Jean des Entomeurs, quand il a vu que les soldats de Charles Quint étaient en train de cueillir le raisin et de vendanger sans que lui-même en ait une goutte, vous savez ce qu'il a fait ? Il a quitté les complis, il a pris le bâton de la croix et il l'a transformé en arme de guerre et il a littéralement désarticulé la troupe des soldats espagnols en train de faire libation dans son jardin. Donc, Jean des Entomeurs, d'ailleurs, ça veut dire Jean qui donne des coups. Entomeur, ça veut dire que c'est Jean des Bleus. Hein. Donc, vous voyez, il y a chez lui une capacité à retenir sa puissance, mais la puissance est énorme et croyez-moi, elle porte des griffes.
Merci.
Non. Les deux textes d'appartenance d'une parfaite clarté, il y a celui que l'acteur a lu tout à l'heure, qui s'achevait sur le texte sur la « Je musarderai avec la musa au pas des musards », et sa réplique au cinquième livre où il dit ceci. Il dit « Je veux donner le repas aux maçons. Je veux servir les maçons. » Et il ajoute cette nuance capitale « Je ne peux pas appartenir à leur compagnie à cause de mon état. » Ça, je vous cite le texte. Hein. « Je ne peux pas appartenir à leur compagnie à cause de mon état. » Donc, on doit comprendre que l'état ecclésiastique de Rabelais l'a empêché d'appartenir à des cénacles initiatiques qui supposaient une autre condition sociale. Et il ajoute, en revanche, « Je donnerai à nourrir. » Et là, il y a toute une chose, notre ami a tout petit peu simplifié le texte en disant « je donnerai le repas ». Non, parce que le pas qui est là, c'est exactement la bouillie de pois. Pourquoi il promet de nourrir les maçons avec la bouillie du pois ? Parce que le pois blanc, par les gaz qu'il dégage, est une promesse d'immortalité de l'âme. Comment l'âme passe, je ne vous explique pas. Ça, c'est du Rabelais. Hein. Et donc, j'ajoute qu'il précise que par cette voie particulière, ça lui permettra de donner enfin un sens aux très célestes écrits des maçons. Et ces très célestes écrits des maçons, c'est pour ceux qui connaissent les constitutions d'Anderson, c'est les archives des anciens devoirs, c'est toute la littérature compagnonique dont Rabelais est ici, se déclare l'héritier légitime, mais il ne peut pas être compagnon parce qu'il est ecclésiastique.
Oui, bonsoir. J'ai entendu parler qu'il aurait été membre d'une mystérieuse société, la Société évangélique. La Société évangélique à Lyon. Oui, oui. Avec
M. Alors, là, les choses sont très compliquées parce qu'elles s'associent au problème des guerres de religion, ou du moins de la réforme protestante. Si vous faites allusion à Marguerite de Navarre. Vous savez que le tiers-livre est dédié à Marguerite de Navarre. Marguerite de Navarre, c'était la sœur de François Ier. Je vais me lever pour qu'on puisse se voir. C'était la sœur de François Ier et qu'elle a cherché à trouver une issue aux guerres de religion et elle a créé un cercle évangélique comme celui que vous déclarez. Et Rabelais dit que la patronne et l'inspiratrice de son troisième livre est Marguerite de Navarre. Donc on peut penser raisonnablement qu'il a appartenu à ce cercle. Là où les choses se compliquent, c'est que certaines personnes pensent que cette société auprès de Marguerite de Navarre, avec les très hauts privilèges à la fois de royauté, mais aussi les privilèges spirituels qui sont associés, est devenue ce qu'on appelle l'étoile internelle. L'étoile internelle, c'est-à-dire une société évangélique qui comprend seulement dans le monde 12 personnes. Et est-ce que Rabelais a appartenu à ce cercle fermé, plus que fermé, clos, dont je parle à l'instant, nous n'avons aucune certitude. Tout ce que nous pouvons retrouver, c'est des jeux dans le texte qui laissent entendre un savoir confondant. Et je suis aussi frappé par le fait que ce savoir, il est énoncé dès le début, c'est-à-dire dès le Gargantua, et il se retrouve à la fin. Donc il y a un arc électrique, si vous voulez, entre le début et la fin. Et les thèmes du plus haut sens qui hantent le prologue du Gargantua continue à hanter le cinquième livre. Mais là, il faudrait rentrer dans des considérations philologiques, parce qu'en fait, les livres n'ont pas été écrits dans le sens 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont été écrits dans le sens 2, 1, 5, 3, 4. Ça, c'est les dernières études de la philologie rabelaisienne qui montrent cet ordre. Ce qui fait que les effets de miroir qu'il y a dans le texte doivent être contenus et compris à travers le chiffre de 1 à 5, mais dans aussi bien cet ordre que j'indiquais. Donc 1, 2, 1, 5, 3, 4.
Est-ce que cette société à laquelle appartenait Marguerite d'Angoulême a quelque chose à voir avec une tradition primordiale dont on parle par ailleurs?
Ceux qui sont éveillés, comme je suppose par la question qui est posée, ont senti que j'étais évidemment en dialogue avec une interprétation qu'on pourrait appeler pérennialiste ou primordialiste, c'est-à-dire guénonienne de Rabelais. J'ai essayé de vous montrer que on peut faire une lecture d'abord anthropologique, c'est-à-dire de montrer que c'était, avant de supposer une tradition secrète traversant toute l'histoire de l'humanité, on pouvait à tout le moins relier à l'art préhistorique et aux découvertes récentes de la préhistoire des analogies fortes avec la caverne rabelaisienne. Donc on peut tout d'abord se contenter de dire que Rabelais, c'est la mémoire de l'humanité. Par mémoire de l'humanité, on l'entend comme récapitulation, hein, quand même, de même que le fœtus, comme on sait, avec certaines irrégularités d'ailleurs, récapitule tous les états antérieurs du vivant. De la même façon, on peut dire que le livre de Rabelais récapitule, pardon, ce qu'on appelle la loi de récapitulation, tous les états antérieurs de la conscience humaine. Et que quand il dit « science consent, conscience n'est que ruine de l'âme », il faut l'entendre dans un sens moral, il faut l'entendre aussi comme une critique de la science, mais il faut entendre aussi que cette conscience est une conscience collective. Ça, c'est une lecture anthropologique et qui fait de Rabelais, au fond, un témoin de l'humanisation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on peut aller plus loin en faisant valoir que Rabelais n'est pas simplement celui qui transmet cette histoire de nos ancêtres à travers des pratiques humaines extraordinairement antérieures à l'âge de l'histoire et qui touchent donc la préhistoire, mais qu'il transmet le sens du divin de cette humanité qui s'est transformée au cours des millénaires et jusqu'à engendrer la nôtre. Et alors, dans cette hypothèse, il devient un témoin non seulement de l'humanisation, mais un témoin du non-humain, Hein, la tradition primordiale, c'est une tradition apurusha, c'est-à-dire qui ne concerne pas les, qui n'est pas humaine, mais qui est transmise aux hommes. Et donc, c'est l'autre interprétation qui consiste à dire que le chiffre gématria, de la gématria du vin, yayin, c'est le même chiffre que le mot secret. Et donc, le plus haut sens, c'est un plus haut sens, je l'ai dit, humain, et cette fois-ci j'ajoute, surhumain, méta-humain et post-humain. Et son véhicule, c'est le masque populaire, puisque des savoirs aussi hauts ne peuvent pas être transmis dans le monde académique qui est trop marqué, et croyez-moi, je vous parle de choses que je connais, trop marqué par les bornes de l'idéologie et de la tradition érudite officielle. Il faut des transmissions beaucoup plus radicales, si vous voulez, transmettre de grands secrets. Les universités transmettent un savoir moyen, mais ne peuvent transmettre ni le haut savoir, ni le bas savoir. Et donc, Rabelais, qui savait cela parfaitement, a su se masquer de ce qu'on appelle un masque populaire, c'est-à-dire de traditions obscènes, de traditions d'almanach, de traditions magiques paysannes, qui sont le moyen de transmettre des secrets qui échappent aux livres et aux universités, et au monde académique, et au monde politique, et au monde de la bienséance. Car seul le peuple garde, il l'a dit encore tout à l'heure, une tendresse formidable pour le petit peuple. Seul le peuple, dans ses réactions les plus intimes, garde les plus hauts secrets. Et à ce moment-là, on peut dire que la tradition populaire est ici porteuse, véhicule obscur à lui-même, de la tradition primordiale qui touche la vérité de Dieu.
Véhicule obscur à lui-même.
Obscur à lui-même, bien sûr.
Merci. Merci pour cette réponse. S'il n'y a pas d'autres questions... Mais je ne sais pas trop ce qu'on peut répondre après ce que vous avez répondu, là.
On cherche, on est des cherchants. Hein.
J'ai l'impression qu'il y a certaines connaissances sur l'étoile internelle. Que reste-t-il de cette chevalerie qui a disparu au début du XXe siècle? La fin, c'est la Béboune. Est-ce que des gens comme Albert Gleizes, qui aurait pu être parmi les derniers faire partie, Charbonneau de Lassay, est-ce qu'il y a encore quelques souvenirs parmi... ces initiés.
Cher monsieur, je dois vous dire d'abord en toute humilité, je ne fais pas partie de l'étoile internelle, je suis un cherchant. Bon. Deuxièmement, je crois qu'on peut admettre que Charbonneau-Lassay en a fait partie. Troisièmement, je crois qu'on peut admettre que René Guénon n'en faisait pas partie. Et que c'est peut-être cela qui est derrière l'affaire Regnabit, c'est-à-dire le fait que Guénon, alors qu'il était au cœur d'un ésotérisme chrétien qui a été développé de façon éblouissante, tout d'un coup, hein, est obligé de se démettre et de partir, et de finalement partir au Caire. Parce qu'en réalité, on dit qu'il est parti pour des raisons privées qui sont absolument d'ailleurs honorables et légitimes. Mais au plan initiatique, il faut aussi comprendre ce qui lui est arrivé et qu'il y a une transition extrêmement curieuse entre la rupture à l'égard de Regnabit et l'arrivée au Caire et l'écriture du symbolisme de la croix. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une difficulté à... relier donc le cercle de Marguerite de Navarre avec l'étoile internelle. Parce que l'étoile internelle, pour autant qu'on en sache quelque chose, défend donc la tradition primordiale, mais à l'intérieur d'une extrême orthodoxie, d'une jalousie d'orthodoxie de l'enseignement qui y serait conservé. Or, Marguerite de Navarre fait quand même partie d'un processus de passage au protestantisme de la spiritualité royale, Il est pensable qu'elle participait à quelques échos de la pensée de Luther. Or, Luther et les réformateurs français, toute l'école de Nyon et de Calvin, sont de très grands théologiens, mais ne sont pas des défenseurs de la tradition primordiale. Donc, il faudrait quand même penser que, si on devait faire une hypothèse ce soir, c'est que Rabelais, s'il a fait partie du cercle de Marguerite de Navarre, il avait pour fonction de retenir le passage au protestantisme de ces cercles. Car vous savez que il a attaqué deux membres, ou en tout cas deux amis de Marguerite de Navarre, Guillaume Postel, qui était lui aussi un immense érudit et qui connaissait la grande tradition de la Bible et du Talmud et aussi la tradition du Coran, qu'il appelle le maniaque le pistolet. Donc, il l'accuse de folie. Il attaque aussi Calvin, il appelle le prestinateur de Genève. Prestinateur, ça veut dire à la fois celui qui fait, comme dans le tarot, des véritables tours de magie, et en même temps le prédestinateur. Il a fait sauter le mot, la syllabe D, et c'est-à-dire celui qui pense que détermination de notre salut est prédestinée éternellement, chose qui contrevient à l'enseignement de la liberté dont Rabelais devient ou reste un grand défenseur. Donc, je crois que Rabelais appartient à une tradition plus souterraine que le cercle de Marguerite de Navarre. Ce qui peut vouloir dire que précisément il pouvait être en alliance avec l'étoile internelle, non pas en tant qu'elle procède directement de Marguerite de Navarre, mais en tant qu'elle peut se soucher sur des traditions des anciens devoirs remontant non pas du tout à la Renaissance, mais remontant à l'âge de Dante et remontant à l'âge templariste et à la question templière. Donc, à mon avis, quand Rabelais dit dans le chapitre 6 du Gargantua « Je bois comme un templier », a plus haut sens. A plus haut sens. Parce que il continue la phrase que boire comme un templier, c'est boire tamquam sponsus, c'est-à-dire boire comme une éponge. Mais tamquam sponsus, c'est le fragment d'un psaume où ce Messie vient tamquam sponsus comme l'époux. L'époux, c'est-à-dire le mari de l'humanité, et c'est toute la théologie de l'épousaille du Sauveur avec l'humanité comme corps de l'Église. Donc vous voyez le rapport entre boire comme une éponge, boire comme un templier, boire comme un mari, c'est-à-dire comme celui qui épouse l'Église, ça veut dire qu'il est porteur d'un sang sacré, ça veut dire qu'il est porteur du Graal. C'est comme ça qu'il faut lire Rabelais. Comprenez pourquoi c'est très fatigant et qu'il y a beaucoup d'appels, mais je vois que vous êtes un élu.
Juste une question. Est-ce qu'on peut dire que Rabelais est un initié ou un grand initié ?
Grand initié. Grand initié.
Il fait partie des grands initiés.
Oui. On peut penser qu'il est initié à tout grade. C'est-à-dire que ce sont des gens n'ont peut-être pas besoin de la progression initiatique. Ce qu'on appellerait un verdoyant, El Kidre, celui qui, d'emblée, par naissance, est initié.
Et est-ce à dire que dans notre voie initiatique, on peut espérer un jour être un grand initié ? Ou est-ce que c'est réservé à certains ?
C'est réservé aux supérieurs inconnus, mon très cher.
C'est bien la question. Il n'y a pas d'autres questions ? Alors, je suis sûr que Rabelais doit quand même vous interpeller, non ?
J'ai l'impression qu'on est allé au fond de Rabelais, là, tout de suite.
Alors, ce que je vais faire, je vous propose, je vais faire un essai très bref, bien sûr. Je vais lire un passage de Rabelais, mais en réponse à notre acteur qui a disparu, il est là. Je vais le lire en vieux français pour que vous compreniez la difficulté, les obstacles que merveilleusement tu as allégé, mais pour que nos amis se rendent mieux compte. Donc je lis le même texte. Je vais lire le prologue de Gargantua, le même texte en vieux français. D'accord ? On fait comme ça et on se séparera là-dessus. Buveur très illustre, et vous, vérolés très précieux, car à vous, non à autres, sont dédiés mes écrits. Alcibiades, ou dialogue de Platon intitulé Le Banquet, louant son précepteur Socrates, sans controverse prince des philosophes, entre autres paroles, le dit être semblable est Silène. Silène, est-ce jadis petite bouette, telle que voyons de présent est-ce boutique des apothécaires, pinte au-dessus de figures joyeuses et frivoles, comme de harpies, satyres, oiseaux bridés, livres, lièvres cornus, cannes battées, boucs volants, cerfs limoniers et autre telle peinture contrefaite à plaisir pour exciter le monde à rire. Quelle fut Silène, maître du bon Bacchus, mais au-dedans l'on réservait les fines drogues comme baume, ambre gris, amomon, musc, civette, pierrerie et autres choses précieuses. Tel disait être Socrates, parce que le voyant au dehors et l'estimant par l'extérieur apparence d'en eussier donné un coupeau d'oignon, tant l'est il estouait de corps et ridicule en son maintien, le nez pointu, le regard d'un taureau, le visage d'un fol, simple en mœurs, rustique en vestiment, pauvre de fortune, infortuné en femme, inepte à tous offices de la République, toujours riant, toujours beuvant, d'autant à un chacun, toujours se gabelant, toujours dissimulant son divin savoir. Mais ouvrant cette boîte, eussiez au-dedans trouvé une céleste et impréciable drogue, entendement plus que humain, vertu merveilleuse, courage invincible, sobresse sans pareil, contentement certain, assurance parfaite, déprisement incroyable de tout ce pourquoi les humains tant veiglent, courent, travaillent, naviguent et bataillent. À quel propos en voustre advit en ce prélude et coup d'essai ? Et posez le cas qu'au sens littéral, vous trouvez matière assez joyeuse et bien correspondante au nom, toutefois pas de mourir là ne faut. Comme au chant des sirènes, ins à plus haut sens interpréter ce que par adventure Cuidier dit en gaieté de cuir.
Très dur, mais je dois dire que là, on a eu droit à quelque chose vraiment à plus haut sens.
Nous allons maintenant nous séparer. Encore un grand merci pour vous trois. François, s'il te plaît. Voilà. Debout. Jean-Paul.
C'est lui qui a écrit. C'est lui.
Rabelais. C'est Rabelais.
C'est lui qui a fait. Tous les deux. Non, c'est lui. Alors, tu sais, c'était très fort. Hein. C'était très, très fort.
Merci à vous trois. Et au mois d'avril.
Bonsoir à tout le monde.